France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Soyez les bienvenus dans le 7-9. Nous sommes le jeudi 26 novembre. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, plus qu'une star de foot, une légende, une icône planétaire, Maradona, l'un des plus grands footballeurs du monde, est mort hier à 60 ans. Il était adulé de Buenos Aires à Naples, où nous serons dès le début du journal. Hommage dans le Zoom à 7h15. Et avec vous, Karine, vos invités à 7h50.
Oui, vous l'avez dit, il a été un génie, une légende, tout simplement, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Diego Armando Maradona nous a tous quittés hier. Joueurs, supporters, experts, c'est le retour du multiplex ce matin sur France Inter. L'ancien champion du monde, Vicente Lizarazu, sera notre invité, mais pas seulement. Je vous promets un moment exceptionnel tout à l'heure à 7h50.
À tout à l'heure, Karine. Les autres titres, Agnès.
Les stations de ski espèrent encore ouvrir pour les vacances de Noël. Derniers arbitrages du Premier ministre ce matin. Mais qui seront ces citoyens associés à la future campagne de vaccination? Il est l'homme qui aurait pu empêcher les attentats de novembre 2015. L'assaillant du Thalys a parlé hier lors de son procès. Et puis des pompiers en campagne pour éviter les incendies domestiques durant l'hiver.
Et à 8h20, l'invité du grand entretien est ce matin le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Didier Lesky. Il publie chez Gallimard dans la collection Tract ce grand dérangement, l'immigration en face. Vous pourrez dialoguer avec lui au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il existe à Naples un musée Maradona qui ne figure sur aucun plan, dans aucun guide. Un véritable capharnaüm de maillots, brassards, photos, chaussures, caouets portés par la star et entassés au sous-sol d'un immeuble du quartier nord de la ville. Un musée tenu par le fils de l'ancien gardien des vestiaires du club, où de 1984 à 1991, Diego Maradona a tout connu. La gloire, le succès, l'argent, la drogue, les femmes, la mafia et la déchéance. Diego Maradona, argentin de nationalité et napolitain de cœur, a donc succombé hier à 60 ans après une vie d'excès commencée dans un bidonville de Buenos Aires et qui a connu son apogée lors de la Coupe du Monde de 1986, un joueur de légende auquel les Napolitains sont venus rendre hommage hier. Reportage Bruce de Galzin.
Son portrait est immense, peint au cœur du quartier espagnol où les Napolitains se sont rassemblés. Sasa, 44 ans, le maillot de son héros sur le dos, nous lit la plaque qu'il vient d'installer devant le petit oratoire dédié à Maradona.
25 novembre 2020, Diego Armando Maradona est parti. Naples pleure. Ciao, dieu du foot. Maintenant tu es un dieu, un vrai dieu.
Sasa a vu Maradona pour la première fois à 8 ans. C'est l'âge de son neveu, Christian, tout ému. Aussi. Il a pleuré parce que Maradona, c'est un dieu, dit Christian. Gian Valerio a 56 ans. Il a vécu toutes les années napolitaines de celui qui avait aussi une face plus sombre, ses liens avec la mafia.
Il l'invitait pour les fêtes des enfants, les baptêmes, et Diego n'a jamais dit non parce que cela changeait quoi qu'il y aille. Il y allait et basta. C'est sûr qu'il a participé à toutes les fêtes de la Camorra napolitaine de l'époque. Mais c'est le même Diego qui allait jouer un match pour un enfant malade du cœur. Il nous a tellement donné sans jamais rien demander. Il n'aurait pas dû naître argentin, il aurait dû naître à Naples.
Et tous ici ont une certitude, le stade San Paolo de Naples sera rebaptisé Diego Armando Maradona. À Naples, Bruce de Galzin, France Inter.
En Argentine, la dépouille du joueur vient d'arriver au palais présidentiel pour une veillée funèbre qui se poursuivra jusqu'à dimanche. Nous serons à Buenos Aires dans le journal de 8h et puis donc rendez-vous dans le Zoom à 7h15 avec l'icône pop et politique qui était aussi Diego Maradona.
Il est 7h04, Agnès, en France. Dernier détail à régler avant déconfinement.
Le rituel est désormais bien rodé. Le président fixe les grandes lignes, en l'occurrence le calendrier, et le gouvernement met en musique. Jean Castex, entouré notamment des ministres de la Santé, de l'Économie et de la Culture, donnera à 11h les conditions de réouverture et les protocoles à respecter. Toute la journée d'hier, des corporations sont montées au créneau pour défendre leur secteur. Une dizaine d'universités demandent à rouvrir dès janvier avec une jauge à 50%. Les coiffeurs demandent une jauge plus souple que les 8 mètres carrés par client. Les catholiques contestent les 30 fidèles maximum par célébration. Et les stations de ski font une ultime tentative. Dominique Marcel est à la tête de 11 stations de ski dans les Alpes, dont Tignes, Val d'Isère et Méribel.
Nous pensons vraiment que nous pouvons encore attendre au moins 2 semaines, sans doute même un peu plus, parce que nous serons encore en possibilité d'appuyer sur le bouton à ce moment-là pour lancer et ouvrir la saison. Nos personnels sont présents, embauchés, et nos équipements seront prêts. Nous pensons que, c'est ce que montrent les indicateurs, que la situation sanitaire continuera de s'améliorer. Nous nous réjouissons, nous, que les cinémas, les théâtres et les musées soient réouverts. Mais on ne voit pas pourquoi, s'ils sont réouverts, et encore une fois nous en réjouissons, on fermerait les stations. Les stations, c'est quoi? Ce sont des villes comme les autres. Il y a les mêmes risques que dans n'importe quelle ville. Vous savez, il y aura moins de risques de se promener dans une station au grand air, dans de grands espaces, qu'aux Champs-Élysées le 31 décembre.
Un propos recueilli par Philippe Lefebvre. Et pour les saisonniers, justement, Elisabeth Borne annonce ce matin dans Les Échos une aide exceptionnelle. 300 000 personnes seraient concernées, dont 70 000 jeunes. Autre point que l'exécutif va devoir éclaircir dans les jours qui viennent, ce collectif de citoyens annoncé par Emmanuel Macron pour associer les Français au processus de vaccination. Un message politique avant tout, car pour l'instant, Simon Le Baron, personne ne sait de quoi il s'agit.
C'est le grand flou au ministère de la Santé, à la cellule de crise Covid, au Conseil économique, social et environnemental chargé de la consultation citoyenne. Personne n'a l'air de savoir ce que le président a en tête. Mais si les détails pratiques sont encore mystérieux, l'intention politique est très claire. Convaincre ceux qui doutent par intelligence, explique un proche du dossier. Ce sont eux qu'il faut aller chercher, plus que les anti-vaccins radicaux et les complotistes qui pensent qu'on va leur injecter une puce 5G sous la peau. Au sein même du gouvernement, certains reconnaissent que les Français ont des raisons de se poser des questions sur des vaccins sortis des labos en moins d'un an et dont on ne mesure pas bien les risques, selon l'aveu d'un conseiller. Emmanuel Macron l'a dit mardi soir, on ne sait pas tout, mais en même temps il doit aller vite. Pour combattre le virus et parce que la compétition mondiale est engagée, dit une ministre, c'est à qui lancera sa campagne de vaccination en premier. Une urgence qui pourrait encore accentuer la défiance, d'où l'utilité de ces citoyens ambassadeurs du vaccin, sans doute plus rassurant qu'une campagne estampillée gouvernement.
Les étapes 2 et 3 du déconfinement sont, rappelons-le, soumises à l'évolution des chiffres. Encore plus de 16 000 contaminations au cours des dernières 24 heures, 381 nouveaux décès et 141 patients de moins dans les services de réanimation. Du côté des salles de spectacle, des cinémas, on s'active pour l'étape 2 le 15 décembre puisque les spectateurs auront donc droit à une dérogation grâce à leurs billets et seront autorisés à braver le couvre-feu. Stéphane Capron, cette fois-ci, Roselyne Bachelot a gagné son combat.
Pendant le premier confinement, la ministre de la Culture était montée au créneau pour demander un assouplissement pour les lieux culturels pour leur permettre de sauver la séance du soir. Roselyne Bachelot avait été retoquée par le Premier ministre. Elle vient de remporter la deuxième manche et même plus, car la dernière séance dans les cinémas ou les théâtres pourra débuter à 20h. Par rapport au couvre-feu d'octobre, c'est une sacrée bouffée d'oxygène pour Bertrand Tamin qui préside le syndicat national du théâtre privé.
C'est déjà bien d'avoir des perspectives. C'est encore mieux d'avoir obtenu cette histoire d'eurodatage. Si nos spectacles se terminent un petit peu après 21h, comme les séances de cinéma, les gens auront toute latitude pour rentrer chez eux, le billet de théâtre ou de cinéma étant un véritable laissez-passer. Donc c'est plutôt sympathique. C'est-à-dire que les gens qui traîneront pendant le couvre-feu à 21h30 ou 22h à Paris et en France seront tous des cultureux. Ils auront plein de sujets pour échanger ensemble.
Les spectateurs pourront donc sortir après 21h et c'est le billet de cinéma ou la place de théâtre qui serviront de justificatif en cas de contrôle policier. En revanche, la jauge autorisée va légèrement baisser. Elle devrait passer de 70 à 65% car les groupes ne seront plus autorisés au-delà de 6. C'était 10 après le premier déconfinement.
Et puis l'épidémie de Covid aux États-Unis avec plus de 2400 morts à la veille des festivités de Thanksgiving. Et puis l'Allemagne décide de son côté de prolonger les restrictions jusqu'au début du mois de janvier.
Il est 7h09, Agnès. Il est l'homme qui aurait pu empêcher les attentats de novembre 2015.
Ayoub El Kazani, l'auteur de l'attaque manquée du Thalys, est jugé en ce moment à Paris et lors de l'audience d'hier, Charlotte Piret, il a raconté son parcours aux côtés de l'organisateur des attentats du Stade de France, des terrasses et du Bataclan.
Ayoub El Razani est un personnage clé à son propre procès, mais aussi si l'on songe aux attentats du 13 novembre, moins de 3 mois après celui du Thalys. Car en 2015, vous êtes sans doute un de ceux, peut-être même celui qui passe le plus de temps avec Abdelhamid Abaoud, lance l'avocat général. Le futur assaillant du Thalys et celui qui coordonnera les attentats du 13 novembre sont ensemble en Syrie, puis en Grèce et enfin sur la route qui les mène vers la Belgique. À Bruxelles, ils passent encore 15 jours dans le même appartement avant qu'Abdelhamid Abaoud donne à son subordonné les instructions pour commettre un attentat dans le train Bruxelles-Paris. Après son arrestation, le premier interrogatoire d'Ayoub El-Razani devant la juge d'instruction a lieu le 6 novembre 2015, une semaine avant. Et vous ne dites rien, s'agace l'avocat général. Mais monsieur, si vous aviez dit ce que les services de renseignement ignoraient, qu'Abdelhamid Abaoud n'était pas en Syrie, mais à Bruxelles, avec des armes et des complices, il n'y aurait pas eu 130 morts à Paris, se désole encore le ministère public. Ayoub El-Razani baisse la tête. Oui, je sais, je le regrette, mais je ne savais pas ce qu'il préparait.
Charlotte Piret. Et puis c'est aujourd'hui que le tribunal doit se prononcer sur la poursuite ou non du procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes. Après l'expertise médicale de l'un des prévenus, dans le journal de 7h30, le témoignage du vrai Paul Bismuth qui a renoncé à se porter partie civile. L'hiver arrive en France, synonyme de températures en baisse et de risques d'incendies en hausse. 800 morts chaque année dans des incendies domestiques. Les pompiers s'apprêtent d'ailleurs à lancer une campagne de sensibilisation pour rappeler les dangers et les gestes qui peuvent sauver. Delphine Evenou.
En France, les pompiers interviennent toutes les 7 minutes pour un incendie domestique, le plus souvent la nuit. Et entre décembre et mars, le rythme s'accélère à cause de nos comportements, explique le commandant Didier Rémy de la commission prévention au sein de la Fédération nationale des pompiers de France.
On chauffe davantage, on bouche aussi quelques entrées d'air. On a également donc les halogènes qui sont trop proches des rideaux. On essaye de mettre des vêtements peut-être sur des radiateurs qui sont pas du tout adaptés. Donc en fait, on crée du risque.
Depuis mars 2015, les détecteurs de fumée sont obligatoires dans tous les logements. Mais ils ne suffisent pas, prévient Didier Rémy, et leur place doit être bien pensée.
On souhaite qu'il y ait un détecteur par chambre et un détecteur au-delà de la chambre, donc dans le volume voisin, pour que tout sinistre qui arrive de la cuisine, du salon, puisse être alerté suffisamment précocement pour pouvoir soit évacuer, soit se protéger en restant confiné dans sa chambre et en alertant les secours en faisant le 112 de façon prioritaire.
L'an dernier, 800 personnes sont mortes à cause d'un incendie domestique et plus de 15 000 ont été blessées selon les pompiers de France.
Et on revient, Nicolas, sur la mort d'Pibe de Oro, le gamin en or, surnom donné à Diego Maradona. Il avait mis un terme à sa carrière de sportif en 1997, le jour de son 37e anniversaire. S'en suivront des années de galère entre cure de désintoxication et poste de sélectionneur sans succès. Je ne suis pas un saint, mais je paie très cher tous mes excès, reconnaissait-il. Le voici, lors de son dernier tour de terrain, au stade de Buenos Aires, la Bombonera, devant un public en pleurs.
Dieu fasse que mon amour pour le football et que cette fête ne finisse jamais, tout comme l'amour que vous me portez. Merci au nom de mes filles, de ma mère, de mon père Guillermo et de tous les joueurs de foot du monde. Il n'y a pas de sport plus beau et plus sain que le football, que personne n'en doute. Le football ne doit pas payer pour les erreurs de certains. Je me suis trompé et j'ai payé. Le football ne doit pas être sali.
Diego Maradona, 60 ans de foot et d'outrance en 60 photos sur franceinter.fr et réactions du monde sportif mais aussi culturel et politique. À noter la réaction d'une autre légende vivante, Pelé. Un jour, j'espère qu'on pourra jouer au foot ensemble au ciel.
Merci Agnès, c'était le journal d'Agnès Soubiran.